La France Bouge Académie, c'est jusqu'à 14h avec vous, Raphaël Duchemin, et c'est l'heure de découvrir la solution d'Elisabeth Assayag.
Oui, faire garder vos enfants par des personnes spécialisées dans la méthode Montessori, c'est possible avec la solution, Elisabeth, elle s'appelle Domisori.
Mais oui, la contraction de domicile et Montessori, ça donne Domisori. Cette entreprise vous trouve une babysitter qui, en plus, vous propose, elle va vous garder les enfants, mais en plus, elle va proposer des ateliers Montessori à domicile. Montessori, c'est une méthode pédagogique qui a été créée en 1907 par Maria Montessori et elle devient de plus en plus demandée par les parents. Pour preuve, la demande est là, une centaine de structures se créent chaque année. Il existe actuellement plus de 600 écoles primaires hors contrat concernant les collèges et les lycées. Et l'objectif, c'est de préparer l'enfant à devenir un adulte responsable et équilibré. Alors, pourquoi pas à la maison. Bonjour Corinna Dragomir.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'être avec nous. Vous êtes éducatrice Montessori au sein de l'association Domisori. Alors d'abord, comment est née Domisori ?
Domisori, elle est née avec la naissance d'un enfant. Donc, on ne peut pas faire mieux. Le fondateur est devenu papa en 2013. Comme tout parent, il y a eu cette quête d'offrir le meilleur pour son enfant. Il a cherché en 2016 une solution de garde à domicile, mais qui proposait des ateliers inspirés de la pédagogie alternative. Et la pédagogie la plus reconnue et celle qui lui ressemblait le plus en termes de valeurs véhiculées, c'était Montessori. Donc, il a approfondi ses connaissances, il s'est documenté.
Fondateur qui est à l'étranger.
Voilà, donc c'est Mohamed El Mazouji. Il s'est documenté, il s'est même formé à cette pédagogie. Il a cherché cette solution à laquelle il n'a pas eu de réponse en France. Donc, il a employé une éducatrice Montessori à domicile, qui l'a aidé à créer l'environnement, parce que ça fait partie de la pédagogie.
C'est un environnement particulier, il faut le dire.
Préparé. Donc, il faut un adulte qui sache préparer cet environnement, le préparer pour l'enfant. Et il y a aussi la posture, la manière dont on met l'enfant en lien avec cet environnement. Et l'enfant, il va se construire dans l'interaction avec ce milieu qui l'entoure. Il se construit soi-même, mais avec ce guide qui est l'éducateur. Malheureusement, le parent ne peut pas être un éducateur puisqu'il ne connaît pas ce matériel. Une partie de ce matériel est scientifique, elle est étalonnée. Après 50 ans de recherche, il y a besoin des deux. On ne peut pas séparer la posture et le matériel.
C'est apprendre en manipulant.
Tout à fait, dans l'action.
Être toujours dans l'action. Ouais. Alors, comment ça se passe avec Domisori ? Par exemple, j'ai besoin de faire garder mon enfant. Quelle est la démarche à suivre ?
La démarche à suivre, c'est nous contacter. Sur domisori.fr, nous faire part de vos besoins, de l'âge de l'enfant, de vos attentes.
Ça peut être à tout âge ?
Ça peut être entre 3 et 6 ans. Ce sont des ateliers de 3 à 6 ans. Et suite à vos besoins, en termes d'horaire, de logistique, on va s'organiser pour vous présenter une éducatrice, un éducateur. Je m'occupe sur Paris pour la mise en place de cet atelier entre les parents et l'éducateur. Oui. Et par la suite, il y aura donc une mise en place des plateaux d'activités, pas pour le développement de l'enfant, puisque c'est l'éducateur qui sait exactement de quoi l'enfant il a besoin à ce moment-là.
Donc, il les apporte à la maison ?
Donc, il va organiser tout cela à la maison. Il y a plusieurs manières de le faire. Mm-hmm. On offre aux familles un matériel Montessori par mois. Il sera choisi en fonction des besoins de l'enfant et en fonction de l'âge qu'il a.
C'est-à-dire un exemple, par exemple ?
Par exemple, vous avez la période de langage, ça s'appelle une période sensible. C'est un terme, un concept fondé par Maria Montessori. Et donc, vous avez une période vers les 3 ans où il sera dans cette période de langage. C'est-à-dire que là, il aura très envie de l'être. Vous ne savez pas pourquoi, comme ça, l'enfant il a besoin d'aller vers l'écriture de lui-même. Vous savez, c'est une motivation qui est intrinsèque, qui le porte. Et là, vous allez avoir les lettres rugueuses. Donc là, on va proposer aux parents, voilà, ce mois-ci, ça sera bien qu'on commence les lettres rugueuses. Donc évidemment, il n'y a pas que ça.
Vous avez, qu'il peut toucher.
Tout à fait, vous avez un apprentissage par les sens. C'est vraiment le propre de cette pédagogie, c'est d'inculquer à l'enfant des concepts mais à travers les 5 sens.
Et tout ça à la maison.
Et tout ça à la maison, avec un regard bienveillant.
Riyad, notre coach ?
Ouais, alors j'avoue que je découvre. Je dois être un mauvais père, parce que je n'ai jamais connu la méthode Montessori. Je n'ai pas bien compris déjà ce que ça faisait. Et en plus, je me demande s'il y a vraiment besoin d'une méthode pour éduquer ses gosses.
Mais c'est plus qu'une méthode, si vous voulez, c'est une philosophie. Montessori, ce n'est pas juste un matériel, une méthode, parce que là, à ce moment-là, vous avez tous les courants de la pensée de 1900. Vous avez, chacun a eu son discours, son matériel.
C'est une méthode alternative, de pédagogie alternative.
Elle, elle a tout son sens. Elle veille vraiment au respect de la nature de l'enfant. Alors vous allez me dire, toutes les méthodes, elles veillent au respect de la nature de l'enfant. Mais les neurosciences, vous voyez, plus de 100 ans après, le prouvent. Il y a un vrai besoin d'écouter le rythme de l'enfant. Car nous vivons dans une société où la quête de la performance, elle est très très forte. Et aujourd'hui, il y a vraiment un vrai besoin de se dire, mon enfant, oui, il apprend, mais en respectant son potentiel à lui.
Et après, mon gosse, il devient quoi? Enfin, il devient un adulte épanoui.
Il deviendra d'abord un enfant heureux.
D'accord.
Okay. Voilà. Il deviendra un enfant heureux, heureux d'apprendre.
Ok.
Et quand on est heureux, on apprend tout. Okay. Voilà.
Vous êtes présent uniquement en région parisienne, un peu partout en France?
Nous sommes présents dans la région Rhône-Alpes, Île-de-France et à La Réunion.
Et les tarifs sont, j'imagine, plus élevés que lorsqu'on fait une demande de garde
un babysitting classique.
Plus classique.
Si vous voulez, déjà pour moi, c'est plus qu'un babysitting. Ouais. C'est un vrai accompagnement dans l'éducation pour l'enfant. C'est un mode de garde. Alors, avec Mohamed, on œuvre pour donner accès à toutes les familles à ce mode de garde. Parce que dès qu'on entend Montessori, c'est très élitiste. Vous savez, les écoles Montessori ont un certain tarif. Donc, notre volonté à tous les deux, parce qu'on s'est rejoints. On est parti des mêmes besoins pour nos propres enfants. Et notre volonté, c'était de changer en profondeur et de manière importante en France la vision sur l'éducation en accompagnant les enfants, mais les parents aussi. Vous voyez, la parentalité, on a ce petit être entre les mains, on ne sait pas trop ce qu'on fait.
Accessible au plus grand nombre.
Tout à fait. Donc, c'est agrémenté par l'État. Des subventions jusqu'à 90%, ce qui permet à une famille d'avoir un coût de 2 euros minimum par heure d'atelier. Donc, accessible à tout le monde.
Alors, en moyenne, combien coûte l'heure si on fait appel à demi-souris?
Si on ne fait pas la demi-souris, vous allez être, on va dire, une moyenne de 10 euros, on va dire. C'est en fonction des statuts des familles, si vous voulez, cette prise en charge sera différente. C'est pour ça que c'est cas par cas. Je ne pourrais pas vous annoncer ça.
Méthode qui suscite beaucoup de réactions.
Oui, il y a des réactions sur Twitter où on nous dit arrêtez de porter au nu cette méthode. Nous, on tient à le dire, on ne la porte pas forcément au nu. On vous explique que ça existe et il y a des modes de garde
comme
différents.
Comme il y a d'autres méthodes d'apprentissage, de pédagogie. On parlait de Freinet, par exemple.
Tout à fait, ou Reggio Emilia. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, ce sont des pédagogies que nous respectons. Le fondateur et moi-même nous retrouvons dans les valeurs de cette pédagogie qui a permis à nos enfants d'être des enfants heureux. Je pense que tous les parents ont cette quête-là et on a envie en France de les accompagner, tous les parents. Donc j'invite tous les éducateurs déjà passionnés par cette pédagogie de nous envoyer leur CV et également les familles.
Et puis il faut garder tout simplement l'esprit ouvert sur ce qui se fait, ce qui est à notre disposition. C'est le cas avec Domi Sori. Merci beaucoup d'être venu.
Merci pour cette invitation.
Il est midi 58.
Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge, si vous nous rejoignez à l'instant. Ici, vous le savez, on aime vous faire découvrir des hommes et des femmes qui imaginent la société de demain, qui créent, qui inventent et qui nous aident surtout à avancer. C'est le cas aujourd'hui dans la lutte contre le cancer. Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer, qui sera d'ailleurs tout à l'heure aux côtés de Mélanie Gomez dans son rendez-vous sur Europe 1, donne ce chiffre assez parlant. 750 000 naissances et 400 000 personnes atteintes de cancer. Voilà qui donne vraiment à réfléchir et c'est ce qu'ont fait nos invités justement. Bonjour Vincent Carré.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Carcidiag. Alors Carcidiag, c'est une entreprise qui a développé un kit qui va permettre, je schématise bien sûr, de connaître l'évolution des cellules cancéreuses. Je crois que ce projet, ça fait un moment que vous l'avez en tête, 2012, si mes informations sont bonnes. Vous êtes chercheur et vous avez monté plusieurs sociétés qui, finalement, tournaient toutes autour de la question du diagnostic. C'est un peu ça.
Oui, tout à fait, oui.
Alors, comment s'impose justement l'idée de travailler sur le cancer? Pourquoi le cancer à un moment donné?
Déjà, c'est quand même un problème de société aujourd'hui. Et puis, on voit que le nombre de cas explose. Il y a un article qui est sorti ce matin, d'ailleurs, dans Le Monde, qui montre effectivement qu'il y a une explosion du nombre de cancers au niveau mondial. Donc, c'est un problème de société. Et puis, nous, on a abordé ce problème-là par une thématique un peu particulière.
Oui, parce que vous êtes glycobiologiste, c'est
exactement,
ça?
Exactement, oui.
Alors, vous étudiez les sucres qui sont présents à la surface des cellules et qui interviennent dans les phénomènes de reconnaissance cellulaire. Et vous vous êtes dit que ça pouvait peut-être marcher aussi en ce qui concerne les cellules cancéreuses.
Oui, alors nos développements en fait, ont porté sur une sous-population de de cellules présentes au sein d'une masse tumorale, c'est des cellules souches cancéreuses. Et en fait, jusqu'à présent, il n'y avait aucun moyen de les déterminer, de les caractériser de façon spécifique. Et donc, on a eu l'idée de travailler avec, avec notre équipe, de travailler en fait sur les phénomènes de la glycosylation qui sont appliqués à cette sous-catégorie de cellules.
Ça veut dire que ces cellules-là, elles ont quelque chose de particulier que vous, vous allez arriver à repérer ?
Oui, effectivement, en fait, elles ont, alors toutes les cellules dans le corps humain ont un certain nombre de motifs sucrés présents à leur surface. Et on arrive, dans certains cas, effectivement, à caractériser des populations cellulaires avec des sucres spécifiques. Et c'est le cas donc, de ces cellules souches cancéreuses qui ont des motifs glucidiques, on appelle ça. Donc, c'est des motifs sucrés qui sont présents.
Des petits dessins qui sont un peu différents.
Ce sont des structures de sucre, en fait, qui sont effectivement différents en fonction du type de cellule, si ce sont des cellules souches cancéreuses ou des cellules cancéreuses différenciées.
Donc, une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait ? Vous arrivez avec ce kit qui va permettre de faire le distinguo entre ces différents sucres, justement ?
Exactement, voilà. On arrive en fait à quantifier la présence et à déterminer la présence de ces sucres au sein d'une masse tumorale. Alors en fait, nous, on travaille sur des biopsies, donc sur les prélèvements qui sont réalisés chez le patient. Et puis, ce sont des kits qui ne sont pas destinés non plus au grand public.
Hein. Ce sont pour les spécialistes qui, justement,
exactement,
analysent ces cellules.
Voilà, ce sont donc pour des médecins anatomopathologistes, qu'on appelle, qui sont les médecins qui, justement, étudient les tissus et les pathologies des tissus. Et donc, en fait, ce sont eux qui vont permettre de mettre en évidence, par l'utilisation de notre kit, la présence de ces cellules souches cancéreuses. Ils visualisent ça au microscope et ils définissent en fait la présence ou non de ces cellules souches cancéreuses et leur taux, le taux de présence.
Ils définissent ça grâce à un liquide, c'est ça qui va changer de couleur ?
Oui, en fait, c'est un marqueur qui permet en fait, alors c'est un marqueur qui est composé de plusieurs composants et qui permet effectivement de caractériser ces cellules souches cancéreuses et ça permet donc une réaction colorée qui est visible au microscope.
Ça sert à quoi ce kit ? Une fois qu'on a ces informations, on va pouvoir détecter plus en amont, aller voir chez les patients si le cancer va se développer rapidement ?
Oui, alors il y a trois applications possibles. Aujourd'hui, il y a deux applications qui sont effectives. La première application, c'est une application du diagnostic pur et dur. C'est-à-dire que aujourd'hui, sur un certain nombre de prélèvements qui sont réalisés, les médecins anatomopathologistes ont dans certains cas des difficultés à être certains du diagnostic, à savoir est-ce que c'est un cancer ou est-ce que ça ne l'est pas. Donc ce kit a déjà une première application et permet de valider effectivement un diagnostic de cancer. La deuxième application, c'est un diagnostic pronostique, c'est-à-dire qu'on définit chez un patient un bon ou un mauvais pronostic. C'est-à-dire que sur des patients qui sont
sur une question d'espérance de vie.
Exactement, c'est corrélé à l'espérance de vie et c'est particulièrement intéressant sur des stades précoces, puisqu'en fait, notre kit s'applique sur tout type de stade de cancer. Mais lorsqu'on travaille sur des stades précoces de développement de cancer, on peut définir un bon ou un mauvais pronostic qui aujourd'hui n'est pas réalisé, en tout cas pas de cette manière-là. Et la troisième application, qui est l'application qui va sortir dans quelques mois,
c'est l'application prédictive.
Exactement, c'est du diagnostic prédictif, c'est-à-dire que c'est pour associer un diagnostic, un traitement qui sera le plus efficace possible pour le patient.
Que dit notre coach, Riyad Bolanoir ? C'est bluffant.
Ouais, je dis que c'est bluffant. Ouais, non, c'est super sympa. C'est super sympa parce qu'on voit qu'on s'améliore de plus en plus sur ce cancer. On le détecte de plus en plus tôt. J'avais une question. Quand est-ce que c'est commercialisé et combien ça va coûter ?
Alors, le kit est terminé. Alors, il y a plusieurs kits, puisqu'en fait, les kits sont différents en fonction du type de pathologie cancéreuse. Donc, nous, on a mis en place des kits pour le cancer du côlon, les cancers du sein et les cancers du poumon.
Donc,
qui sont les plus fréquents.
Et ça, c'est commercialisé depuis début 2020 ?
Depuis le début de l'année, voilà. Nos kits sont prêts à être commercialisés. Donc, on est en train de mettre en place toute la partie commerciale, marketing, parce que c'est quand même de la vente, ce genre de produit.
Et puis, il y en a d'autres qui sont en développement, notamment
exactement.
Pour les cancers qui sont liés à toute la sphère ORL.
Exactement, les cancers ORL, donc des voies aérodigestives supérieures. Voilà, donc.
Et ça coûte ?
Alors, un test excusez-moi. Aujourd'hui, en tout cas sorti de chez nous, il coûte 20 euros, donc c'est relativement peu cher. Sur un marché où généralement on a tendance à avoir une inflation dans le prix du diagnostic.
On le fait soi-même ou il faut passer par un professionnel
pas.
De la
voilà,
santé quand même
fait, non,
parce que sinon, si on est tout seul à avoir son test à la maison, on peut vite s'enflammer.
Et on pourrait se faire peur, effectivement. Non, c'est un test qui est destiné aux professionnels, aux médecins.
Justement, Elisabeth, on en est où aujourd'hui dans la lutte contre le cancer? On voit qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place.
Il y a des choses qui se mettent en place. Quelques chiffres. En 2018, on a eu 382 000 nouveaux cas de cancer en France. 200 000 concernent des hommes et 182 000, ce sont les femmes. Aujourd'hui, le taux de guérison définitif, il faut le dire, il est supérieur à 50%. Il y a des cancers que les équipes de médecins arrivent à traiter souvent, comme le cancer du testicule, la maladie de Hodgkin, par exemple. Mais certains restent tout de même redoutables, comme les glioblastomes, qui sont des tumeurs cérébrales, le cancer du pancréas et encore le cancer du poumon, qui reste très, très grave. Aussi.
On reste ensemble et on continue à parler de cette lutte contre le cancer aujourd'hui.
Il est 13h19.
Europe 1.
Comment aider les patients atteints cette fois de cancer rare? C'est tout l'enjeu donc c'est au qui s'attaque à la question. A tout de suite.
Dans la France Bouge cet après-midi, à l'occasion de la journée de lutte contre le cancer, on parle des innovations qui aident à lutter contre cette maladie. Pour agir ou poser vos questions, il y a Twitter, hashtag Europe 1. Vous pouvez aussi nous appeler Raphaël au 3921.
Oui, il y a des cancers très répandus pour lesquels, on le sait, de gros moyens sont déployés. D'autres sont, c'est vrai, moins connus. Et c'est à eux que s'intéresse notamment Onxéo. Bonjour Judith Gressier.
Bonjour.
C'est vous qui dirigez cette entreprise de biotechnologie qui a été fondée dans les années 2000. Alors vous êtes pharmacienne de formation, mais vous avez aussi occupé, et c'est important de le préciser, tout un tas de postes très différents jusqu'en 2011. Et vous avez souhaité revenir finalement au développement des médicaments, d'où votre arrivée chez Onxéo. Vous avez commencé à travailler sur les traitements des cellules cancéreuses à cette date parce que l'entreprise venait d'acquérir des laboratoires qui planchaient justement sur la question.
Oui, exactement. En fait, le laboratoire avait déjà un certain nombre d'activités, mais c'est vrai que dans le domaine de la cancérologie, mais plutôt la prise en charge, on va dire autour des traitements anticancéreux, et quand je suis arrivée, on a regardé un peu ce qu'on avait en portefeuille, les différents candidats médicaments qu'on avait, et on a décidé avec le conseil d'administration de se focaliser sur des traitements de cancer rares, c'est-à-dire qui ont une épidémiologie, donc moins de 250 000 cas en Europe et surtout pour lesquels il y a des besoins médicaux très importants, avec des molécules qui sont très innovantes et qui vont chercher à s'attaquer à ces cancers particulièrement résistants.
Alors, ces cancers, ils sont particulièrement résistants aux traitements, aux chimiothérapies, aux radiothérapies. Donc l'idée qui est quand même très ambitieuse au départ, c'est d'empêcher finalement que la cellule cancéreuse puisse se réparer une fois que les traitements ont été faits.
C'est exactement ça. Donc on s'est, nous, focalisé depuis ces dernières années sur la résistance aux traitements qui sont utilisés. Donc effectivement, chimiothérapie, radiothérapie, d'autres thérapies ciblées aussi, qui sont
Celles-là étant les plus connues, plus complexes.
Mais chimiothérapie, radiothérapie étant les plus connues. Et on sait que la cellule tumorale, la cellule cancéreuse, est capable, en fait, une fois qu'elle est attaquée et que son ADN est abîmé, elle est capable d'enclencher des voies de réparation qui vont réparer l'ADN. Pour essayer de survivre et surtout pour continuer à se diviser de manière homogène et normale, puisque la cellule cancéreuse, elle est programmée pour se diviser, elle ne sait pas s'arrêter. C'est d'ailleurs pour ça que la tumeur progresse. Donc c'est une façon qu'on a eue de dire, et qui est reprise par un certain nombre de grands laboratoires académiques mondiaux, etc., c'est pas que chez nous, mais de dire, si on empêche la cellule de se réparer, si on empêche le cancer de pouvoir contourner les médicaments qu'on utilise, alors on va augmenter leur efficacité ou prévenir l'apparition des résistances.
Donc on va faire en sorte que la tumeur ne puisse pas contourner par exemple les traitements ?
Exactement. On sait typiquement, on parle en cancérologie, on diagnostique, on va administrer une ligne de traitement, on suit. On va avoir une réponse complète, une réponse partielle, une maladie qui va se stabiliser ou pas. Et on sait qu'au bout de quelques mois, plus ou moins long, la tumeur va se remettre à progresser parce qu'elle a mis en place ces mécanismes de contournement et qu'elle sait finalement se réparer et faire face à ces traitements. Et donc, dans ces cas-là, la tumeur progresse et le cancérologue va prescrire une autre ligne de chimiothérapie ou thérapie ciblée, peu importe. Et donc, effectivement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'associer à ce moment-là pour empêcher la cellule d'arriver à résister à ces traitements.
Alors, c'est forcément très, très prometteur. Ouais. Vous travaillez dessus depuis 2014. C'est en phase de test, hein,
oui.
C'est ça?
Oui.
Ce projet s'appelle?
Alors, le projet, je dirais, tête de lance ou fer de lance s'appelle Acidna, qui veut dire, voilà, c'est la première molécule qui va interférer dans ces fonctions de l'ADN. SI, c'est, voilà, qui interfère dans l'ADN, Acidna, qui est en phase qu'on appelle 1B dans notre jargon à nous, excusez-moi. Ça veut dire qu'il est testé chez les patients, chez des malades, en association avec des chimiothérapies. L'objectif premier de ce type d'études, c'est de regarder la tolérance, puisque, évidemment, on ne veut certainement pas rendre le patient plus malade. Et en tout cas, on doit absolument vérifier qu'on n'entraîne pas d'effets secondaires rédhibitoires ou supérieurs. Donc, on regarde la tolérance et on regarde évidemment aussi les signaux d'efficacité en association avec des chimiothérapies.
Riyad Boulanoir.
Ouais, moi je trouve ça génial. Alors, ce qui est marrant, c'est que je vous écoutais, c'est vraiment une stratégie de guerre, quoi.
Je pensais à ça.
Là-dedans, où on bombarde les hôpitaux, où on fait des armes mutilantes.
Et vous êtes les snipers de celles qui contournent.
Ouais, des cellules cancéreuses, vous les empêchez de pouvoir se soigner. Mais
je pense qu'en cancérologie, on a clairement, enfin, de plus en plus de voies de recherche. Voilà, donc on essaye d'attaquer la cellule tumorale. D'abord, on les diagnostique pour utiliser le meilleur traitement. On essaye d'attaquer la cellule tumorale. Et on essaye aussi maintenant, de plus en plus, de s'attaquer à ce qu'elle est capable de mettre en place pour résister. Donc, et la cellule tumorale est très intelligente.
Ouais. On attaque ses moyens de défense.
On attaque
aussi
ses moyens de défense, exactement.
Elisabeth,
je suis scotchée.
Le cancer, il se développe, on l'a dit, mais, et c'est important de le préciser, on en guérit aussi.
On en guérit aussi, puisque, en moyenne, un homme sur deux et une femme sur trois auront un cancer avant ses 85 ans. Mais il y a de l'espoir. La recherche fait des progrès avec des nouvelles perspectives. Et l'objectif à la fin de 2020-2030, à la fin de cette décennie-là, c'est qu'on en guérisse les deux tiers et trois quarts dans la décennie prochaine, 2030-2040. Mais les cancérologues le disent, hein, 40%. 40% des cancers seraient évitables avec une meilleure hygiène de vie. Ce n'est pas pour nous culpabiliser, mais ce sont les faits, hein, ils le constatent chaque jour. Et les recommandations qui suivent, c'est ne pas fumer, boire moins d'alcool, éviter l'obésité et la charcuterie au nitrite dont nous parlons tant.
Oui, dont nous avons effectivement parlé aujourd'hui
depuis la matinale.
On reste ensemble et on continue à parler lutte contre le cancer aujourd'hui.
Il est 13h28.
Europe 1.
Aider les patients atteints de cancer à retrouver aussi une autonomie, c'est la mission que s'est fixée Continuum Plus Santé. A tout de suite.
C'est la journée mondiale contre le cancer et on en parle dans La France Bouge avec des innovations dans ce domaine. Si vous avez des questions pour nos invités, appelez-nous au 3921. Vous pouvez aussi nous écrire via Twitter, hashtag Europe 1, Raphaël.
Il y a le stade de détection de la maladie, la période de soins. Mais après, une fois que le malade a été traité, qu'il rentre chez lui, que se passe-t-il? Bonjour Guillaume Gau.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes pharmacien, mais vous êtes aussi entrepreneur et vous avez eu l'idée de fonder Continuum Plus. Votre idée, finalement, elle est assez logique. Hein, suivre le patient, y compris chez lui, l'accompagner en fait pendant sa maladie, sa prise de traitement. Bref, ne pas le laisser seul. C'est ça l'idée.
Absolument. L'idée, c'est d'assurer la continuité thérapeutique et la prise en charge au domicile du patient. Et donc, on a créé la solution AcoAdom pour accompagnement à domicile, en faisant intervenir l'infirmière libérale, l'infirmière du patient.
C'est en 2010, c'est ça que vous avez eu cette idée?
Oui, cette idée, elle remonte à une dizaine d'années, en effet, puisque en fait, j'ai une amie qui a été atteinte d'un cancer du sein, qui a récidivé à plusieurs reprises. Et j'ai pu constater en fait, toute la difficulté de la gestion des effets indésirables au domicile, des thérapeutiques administrées, et notamment la gestion donc, de ces effets indésirables.
C'est-à-dire qu'on est avec une prise de traitement et puis quelqu'un qui se retrouve seul avec la problématique et qui ne sait pas forcément ni vers qui se tourner ni quoi faire?
Bien, entouré de ses proches, bien sûr, bien suivi à l'hôpital, mais quand on est à domicile le matin et qu'on fait face à des problèmes d'éruption cutanée importants ou des douleurs au bout des doigts, au bout des extrémités des pieds, c'est extrêmement handicapant et ça peut avoir des impacts extrêmement forts jusqu'à l'observance du traitement.
Du coup, à ce moment-là, vous vous tournez un petit peu vers les pays de la communauté. Vous regardez ce qui se fait en Italie, notamment. Vous regardez aussi du côté des pays scandinaves et vous vous dites il faudrait que nous aussi, on puisse mettre quelque chose en place pour aider les patients dans leur parcours de soins à domicile.
Oui, alors j'ai eu la chance de travailler quelques années à l'étranger et notamment j'ai pu voir dans ces pays, et particulièrement donc en Suède et en Hollande, des prises en charge très coordonnées, hôpital, ville, domicile. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on puisse arriver à réaliser la même chose dans un cadre réglementaire relativement contraint en France, mais on doit arriver à faire quelque chose, d'où Aquadom.
Ouais, donc vous vous lancez en 2017 avec Aquadom, c'est ça?
La start-up, ouais. Qui s'appelle donc la société, c'est Continuum Plus. Hein, pour la continuité thérapeutique. Et Aquadom est né tout de suite, d'un défi de santé numérique qui était organisé dans le Grand Est et auquel nous avons concouru et nous avons été le coup de cœur du jury.
Vous avez pitché, c'est ça?
C'est ça, ce qu'on dit dans le jargon des start-up.
On a bien l'habitude d'ici.
Et surtout, on a rencontré une association de patients, Patients en Réseau, qui est présidée par Laure Guiroux-Acolas et qui nous a rejoints dans cette aventure. Et nous avons constitué un pilote qui a été mis en œuvre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg sous l'impulsion du docteur Philippe Barthélémy. Et nous avons expérimenté dans 3 cancers, le rein, le sein et le poumon.
Donc, les patients sont pris en charge grâce à ce système de bout en bout, si j'ose dire. Ils sont suivis dès leur sortie de l'hôpital.
Alors, ça touche aujourd'hui les traitements anticancéreux oraux pour les stades métastatiques du cancer. Et il y a de plus en plus de traitements dans ce domaine. Il faut s'en réjouir. Mais ces traitements se prennent par la voie orale, donc par la bouche, à domicile. Et comme un traitement contre le cancer, contre le diabète ou contre l'hypertension, hein, mais il faut le faire chaque jour et avec l'anxiété de devoir prendre ce médicament et avec les effets indésirables qui peuvent survenir. Donc c'est sur ce type de thérapie que nous intervenons et nous allons prendre en charge la phase d'instauration du traitement, qui est une phase critique sensible, et ce sont les 3 premiers mois sur lesquels il faut intervenir et réussir le traitement. Si on passe ce cap difficile, alors on rentre dans une utilisation plus chronique du traitement.
Oui, ça signifie que vous aidez le patient à s'habituer au traitement, à en connaître les potentiels effets indésirables,
absolument,
à le gérer.
À gérer ces effets indésirables, à les identifier avec l'aide de l'infirmière libérale. Il faut savoir que les patients, souvent, quand ils sont seuls, ils serrent les dents, ils se disent « je vais passer cette période difficile ». Les effets s'accumulent, voire se potentialisent, et on peut se retrouver dans une situation qui requiert l'admission aux urgences. Et donc, on a très souvent plutôt l'habitude de ne pas communiquer sur ces éléments-là, et pourtant de prendre sur soi, et ça peut avoir des effets sur la réussite du traitement.
Elisabeth, justement, il y a des innovations concernant les effets secondaires des traitements. Je crois que vous en avez trouvé.
Il y a notamment une start-up qui s'appelle Novagré, qui permet de connaître la sensibilité du malade par rapport au rayon. C'est une solution qui aide donc les malades qui peuvent avoir ces fameux effets secondaires qui sont lourds lors d'une séance, après les séances de radiothérapie. Donc cette start-up développe des tests sanguins et des algorithmes pour identifier les patients à risque. Les patients à risque, ce ne sont pas tous les malades, ils représentent environ 5 à 10% des malades, et ils s'attaquent, Novagré s'attaque à plusieurs cancers, cancer du sein, du poumon et de la prostate.
Riyad Boulanoir, notre coach.
Ouais, alors moi je voulais savoir comment on vous contacte, votre plateforme déjà, est-ce que le particulier peut vous contacter ou c'est des infirmières libérales uniquement?
Alors concrètement, c'est l'oncologue qui propose cet accompagnement à son patient, et donc qui lui permet d'accéder au suivi par l'infirmière libérale au domicile pendant 3 mois. Et c'est nous qui ensuite, une fois que le patient a été inscrit par l'oncologue sur la plateforme, prenons contact avec le patient et intervenons auprès de l'infirmière libérale, mais aussi du pharmacien d'officine et du médecin traitant, parce que nous incluons également ces différents intervenants. Mais le point de départ, c'est l'oncologue à l'hôpital.
Vous êtes présent partout aujourd'hui?
Alors nous sommes présents dans une quinzaine d'établissements et nous avons plusieurs centaines de patients qui ont été accompagnés par la solution, et on a un taux de satisfaction de 96%.
96%.
Ouais. Ce qui est important, et surtout c'est la situation de la gestion de la sévérité des effets observés, puisqu'on arrive à environ 10% de grades élevés d'effets indésirables, alors que sur ces thérapies, généralement dans les essais cliniques, on arrive à 50, 70% même d'effets de sévérité élevés. Donc on diminue énormément par cet accompagnement humain et numérique, les problèmes liés aux toxicités des traitements.
Parce que l'accompagnement humain et numérique, ça donne quoi ? C'est-à-dire que vous allez prévenir le potentiel effet indésirable ? Vous allez les prévenir ?
Non, en fait, l'infirmière, elle, recueille au domicile ce qui se passe. Elle va faire un relevé de données cliniques de type tension artérielle, température, poids, qui signent l'évolution et le déclenchement éventuel d'effets indésirables, plus les symptômes que présente le patient. Et elle va intervenir elle-même ou faire intervenir le médecin traitant ou
pour ajuster le traitement ou donner un petit médicament.
Donner une respiration sur le traitement. Et toute cette information est partagée en temps réel par le numérique et l'ensemble des intervenants.
Avec l'oncologue et tout le monde.
Exactement,
est,
parce
monde est
que
au
c'est,
ce qui est
l'idée,
en train de se
c'est de que ça soit une prise en charge hôpital, ville, domicile,
collective.
Complète.
On reste ensemble et on continue à parler lutte contre le cancer aujourd'hui.
Il est 13h39.
Europe 1.
Et on attend vos questions. 3921, Twitter, hashtag Europe 1. La France bouge avec vous. A tout de suite.
C'est la journée de lutte contre le cancer. On en parle cet après-midi dans La France bouge. On parle surtout des innovations pour lutter contre cette maladie. Raphaël, avec vos invités.
Nous sommes avec Vincent Carré, président fondateur de Carcidiag, qui a développé un kit qui permet de faire un diagnostic pronostic de l'évolution des cancers. Judith Gressier, qui est dirigeante d'Onxéo, une entreprise de biotechnologie qui développe des molécules qui ciblent notamment les cancers rares. Et Guillaume Gau, pharmacien, entrepreneur, fondateur de Continuum Plus Santé, opérateur de services qui développe en fait des solutions de continuité thérapeutique et d'autonomie des patients. Notre coach Sériad Boulanoir, cofondateur du compte Nickel et fondateur de la méthode Boulanoir. À mes côtés, bien sûr, Elisabeth Assayag. On se demandait, Guillaume Gau, si ce que vous faites aujourd'hui avec les patients qui prennent des traitements oraux, c'est quelque chose que vous pouvez dupliquer dans d'autres types de traitements.
Absolument. Et donc, on va commencer un pilote sur l'immunothérapie, ces nouvelles thérapies contre le cancer qui sont très intéressantes et qui présentent aussi des profils d'effets indésirables particuliers, notamment quand elles sont associées à d'autres thérapeutiques. Donc oui, nous allons vers l'immunothérapie.
Alors il y a quelque chose qui va vous faire plaisir parce que nous sommes en ligne avec Isabelle qui nous appelle de Tours et qui a justement utilisé l'application Acodom dans le cadre de son cancer et qui a très envie, Isabelle, à Tours, de témoigner. Est-ce qu'elle est en ligne avec nous ? Non, oui, non, non, pas encore. On va la prendre d'ici quelques instants. Alors, je me tourne vers vous, Vincent Carré. Est-ce qu'il y a d'autres développements prévus ? Vous nous avez parlé du kit. Est-ce qu'il y a d'autres phases à venir ?
Oui, alors j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, toute la partie prédictive, hein, c'est-à-dire adapter le traitement en fait en fonction du diagnostic. Et puis après, au niveau du diagnostic, il y a des évolutions aujourd'hui qui sont vraiment dans l'air du temps, c'est toutes les biopsies liquides, c'est-à-dire arriver à faire un diagnostic du cancer à partir d'un prélèvement sanguin, essayer de le faire de plus en plus précisément. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, notamment que de faire des prélèvements par biopsie, qui sont quand même des prélèvements invasifs, forcément.
Judith Gressier, on a parlé de ce qui était en cours, en phase de test. Je crois que vous travaillez sur une autre molécule également. Alors, OX401, c'est ça ?
OX401, pour son petit nom.
Oui.
Et son nom de code. Il n'a pas encore de nom, on va dire, chimique. Et effectivement, c'est un autre, on appelle ça un candidat médicament,
oui.
Issu d'une plateforme qui est donc notre plateforme, qui s'appelle Platon, et qui, lui, va viser d'autres... On reste dans le même domaine, hein, des cancers rares et de la résistance. On va travailler sur...
sur le système immunitaire.
En fait, c'est une molécule qui a deux mécanismes d'action conjoints. Un sur le système immunitaire qui va activer une des voies du système immunitaire. On parlait d'immunothérapie tout à l'heure qui aujourd'hui est vraiment, on appelle ça la voie STING, qui est une voie extrêmement prometteuse mais qui génère des effets secondaires très graves. Donc on pense que nous, avec notre molécule, on doit pouvoir en avoir le bénéfice sans les inconvénients et en même temps qui agit encore sur la réparation de l'ADN tumoral en la prévenant au travers d'une voie spécifique qu'on appelle la voie PARP.
Alors, on a une question de Kassem. Kassem qui nous appelle dans l'Aisne, qui a composé le 3921, qui nous dit « Dans le cas de signe d'une éventuelle récidive d'un cancer du sein, est-ce qu'il y a un traitement efficace ?» Est-ce que vous avez un début de réponse pour Kassem aujourd'hui ?
Alors je pense que la seule personne qui peut avoir une réponse, c'est le médecin de Kassem. Le cancer est en fait, on dit le cancer, mais c'est un nombre de maladies incalculables. Et d'ailleurs, maintenant, avec les progrès diagnostiques, il y a X sous-types de cancer du sein, cancer du sang, etc. Donc, et tous peuvent bénéficier d'un traitement différent. Donc, il y a malheureusement pas de réponse possible là, comme ça. C'est à son médecin qu'il faut poser la question.
Alors, on a retrouvé Isabelle qui est à Tours. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez utilisé l'application Acodom, hein, Isabelle?
Alors, je ne l'utilise pas. C'est l'oncologue et le médecin traitant et l'infirmière qui l'utilisent.
Oui.
Puisqu'il n'y a pas d'accès, en fin de compte, pour les patients.
Mais vous êtes...
C'est possible pour les patients.
Oui, mais vous en bénéficiez, entre guillemets, si j'ose dire. C'est ça?
C'est ça.
Oui, dans le cadre du cancer que vous avez eu, et vous dites « j'aimerais apporter mon témoignage ». Ça a changé quoi, justement, cette prise en charge pour vous, Isabelle?
Ben justement, c'est la question que je me pose, c'est que pour le moment, je ne vois pas trop l'avantage que ça apporte. J'en ai parlé avec le médecin traitant qui, pareil, ne voit pas trop l'intérêt. Et il n'y a pas de lien, en fin de compte, entre le médecin traitant, l'oncologue. Et quand j'en ai parlé à l'oncologue, j'ai dit mais il n'y a pas de lien entre tout le monde, parce que pour moi c'était, on me l'avait vendu comme ça, et pour moi c'était l'intérêt.
Oui.
Et on m'a dit ah non, c'est pas, il n'y a pas de lien.
Alors manifestement ils ne doivent pas forcément bien savoir s'en servir, Guillaume Gau, parce que l'idée c'est justement que tout le monde soit en réseau.
Ben oui, ben justement, oui. Donc l'idée c'est que l'accès puisse se faire pour chacun des intervenants. Donc à commencer par l'oncologue et qui en fait inscrit son patient, qui certes aujourd'hui le patient ne peut pas accéder à l'application lui-même, mais l'accès est rendu possible au médecin traitant, au pharmacien d'officine et donc à l'infirmière libérale. Et c'est l'ensemble de ces informations qui sont partagées et qui permettent donc de prévenir les situations. Donc si en fait il n'y a pas d'effet indésirable, et c'est plutôt une bonne chose, eh bien c'est normal que finalement les choses ne semblent pas nécessairement apporter de valeur ajoutée. Donc c'est ça la difficulté, c'est quand rien ne se passe, justement, c'est là qu'on se rend compte finalement de l'intérêt du dispositif.
Merci en tout cas Isabelle d'avoir composé le 3921 pour nous apporter votre témoignage. Merci à tous les trois d'être venus nous parler lutte contre le cancer. Lutte contre le cancer, on en parlera aussi tout à l'heure avec Mélanie Gomez qui recevra Axel Kahn à partir de 15h sur Europe 1. Il est 13h48.
Europe 1.
Et nous on reste ensemble, d'ici quelques minutes on va s'intéresser à une entreprise qui est née à Béziers dans les années 70, c'est Technilume et c'est l'entreprise qui va bien.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien. Oui, et cette entreprise, c'est Technilume. Bonjour Agnès Julian.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est une entreprise qui fabrique du mobilier urbain d'éclairage. Je disais tout à l'heure, vous mettez de la lumière finalement dans nos villes la nuit. C'est une entreprise qui a été créée en 1971 par votre père, du côté de Béziers.
Tout à fait. C'est en fait mon père qui a eu cette idée en 71. De faire les premiers mâts en aluminium, en fait, qui n'avaient jamais trop existé en France. Et il a initialement démarré par des projets sur le littoral. Mais dès l'origine, il était ce qu'on appelle ensemblier, c'est-à-dire qu'il fournissait autant le lampadaire et le mât que le luminaire. Et donc, il a commencé initialement par des projets en bord de mer.
Ce que vous appelez le mât, c'est le réverbère, c'est ça?
Alors non, en fait, c'est la partie émergente. Et puis ensuite, le luminaire, c'est la partie qui est sur le mât. Qui
deux
peut
métiers
avoir,
complètement différents.
Qui sont parfois différents pour certains de nos confrères et pour lesquels nous, on est restés ensemblés, c'est-à-dire qu'on fournit autant les mâts que les luminaires.
Alors, en 73, vous avez travaillé effectivement pour la Grande Motte. Hein. C'est comme ça que ça démarre vraiment l'aventure de l'entreprise? C'est ça.
Alors,
qui
ça avait démarré
connaître.
Un peu avant, mais en revanche, je pense que c'est une date importante pour l'entreprise, puisque ça nous positionne aussi dans ce qui reste notre cœur de métier, c'est-à-dire collaborer avec les maîtrises d'œuvre, souvent pluridisciplinaires. Et dès cette époque-là, on crée effectivement un lampadaire avec Jean Balladur, qui est donc l'architecte de la Grande Motte, qui aujourd'hui est une ville classée patrimoine du XXe, Et cette histoire se prolonge ensuite avec d'autres projets. Et oui. Depuis tout le, enfin, tous les projets qu'on a eus depuis ont souvent été menés en collaboration avec des maîtrises d'œuvre pluridisciplinaires et on nous a très vite qualifiés comme la haute couture de l'éclairage.
Oui, parce qu'en 1988, par exemple, et on pourrait en donner comme ça beaucoup, vous avez créé les lampadaires blancs triples sur la promenade des Anglais.
Tout à fait, c'est un projet majeur pour nous, qu'on appelle d'ailleurs le collier de perles encore aujourd'hui. C'est des lampadaires qui ont maintenant près de 30 ans et qui sont toujours en place. C'était un projet qu'on n'a pas initié, mais où on a refait en fait le modèle d'origine, qui n'aurait pas pu continuer à exister parce que ce n'était pas du tout les mêmes matériaux. Et on l'a conçu en aluminium, qui est vraiment notre cœur de métier, avec des techniques sans soudure et des techniques qui aujourd'hui font que ce matériel est encore pérenne de nos jours.
Votre père est décédé assez jeune. C'est vous qui, très jeune aussi, avez dû reprendre l'entreprise. C'était une évidence de prendre sa suite ?
Pas du tout. Mais c'est des choses qui se font du jour au lendemain dans ces cas-là, donc on réfléchit peu. Et on s'engage effectivement dans une entreprise, d'abord pour les hommes qui y sont, et puis après on essaie de faire des choses un peu plus à son image. Et donc c'est vrai que j'ai fait ça à 24 ans, ce qui était effectivement assez jeune. Mais après l'histoire maintenant finit par être ancienne, parce que ça fait déjà plus de 25 ans. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'est fait un peu au fil du temps. En revanche, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'apporter un peu une patte différente, c'est-à-dire que c'était vraiment une entreprise ancrée dans la métallurgie. Elle l'est évidemment toujours. Et on a essayé davantage de mettre beaucoup de design, d'innovation. Et c'est comme ça qu'on a continué à grandir à côté de multinationales, mais à être quand même assez représentatif sur notre marché.
Oui, toujours en faisant la totalité de vos mâts, de vos travaux sur Béziers.
Alors oui, 100% fabriqué en France, qui nous a d'ailleurs récemment valu l'exposition de l'Élysée du fabriqué en France. On est également entreprise du patrimoine vivant. On est French Fab, évidemment, aussi par la force des choses, et fier de l'être. Mais c'est vrai qu'on a fait ce choix de continuer à produire en France, ce qui n'est pas toujours le cas de nos métiers. Et on a fait également le choix récemment, il y a moins de 2 ans, de faire un fort investissement sur notre site de production et de tripler, en gros, notre capacité de production par ce site, qui est un site d'avenir et qui est un site aussi qui s'inscrit dans notre patrimoine, on va dire, de Technilume et de Lézignaux, qui est le site où nous sommes installés. Et qui était initialement un ancien chez viticole.
Vous parliez tout à l'heure de haute couture. On pourrait citer des tas d'œuvres, finalement, que vous avez réalisées. La vieille ville de Jérusalem, on est en 2012, c'est ça ?
Tout à fait, 2012, porte
2016,
de Jaffa.
2016, là, on part aux États-Unis. On est dans le parc du mémorial du 11 septembre à New York.
Exactement.
Et puis 2019 aussi, plus récemment.
L'Highline et le Vessel. Ouais. Le vaisseau, pour être plus français. Mais qui est en fait la prolongation de l'Highline et qui est cette œuvre un peu majeure faite par Etherwick et qui est cet escalier un peu sans fin en cuivre et qui effectivement constitue aujourd'hui une très belle carte de visite puisque s'exporter pour une petite entreprise française, c'est quand même pas mal. Et avoir finalement le lieu le plus Instagrammé du monde, c'est encore mieux.
Et puis vous êtes résolument tournée vers ce qu'on appelle la Smart City aujourd'hui. Vous avez de plus en plus de solutions qui intègrent ce concept.
Alors, c'est une évidence qu'aujourd'hui, l'éclairage public ne peut plus faire qu'éclairer, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a quand même des velléités de bien descendre les consommations énergétiques. Et depuis pas mal de temps, déjà, on avait, pour nous, contribué à faire du mât autre chose. Dès 2008, d'ailleurs, on a fait une très belle réalisation à Montréal et qui était un peu, on va dire, novatrice, non pas parce qu'on ne savait pas faire en France, mais parce qu'on avait plus de mal à mutualiser les supports en France. En l'occurrence, à Montréal, ils n'ont pas de difficulté à le faire parce qu'ils ont tellement de problèmes avec le déneigement qu'ils ont besoin d'avoir très peu d'émergence. Donc, on mettait tout sur le même support, donc la signalétique et plein d'autres choses. Et en fait, cette idée nous a aussi poussé à faire de plus en plus de propositions en France pour avoir des mâts qui sont en fait Smart City, donc qui font de la captation d'images, qui font de la sonorisation, qui font également de la captation environnementale via des capteurs et qui peuvent être également demain des systèmes d'alerte. Et donc, de plus en plus, on arrive à imposer ce type de mât dans les villes. C'est pas simple, mais on y arrive.
Riyad, notre coach.
Oh bah, je trouve ça super. Déjà, félicitations d'avoir repris la société, de l'avoir tenue aussi longtemps, parce que c'est quand même pas évident. C'est quoi donc la tendance du lampadaire du futur ?
De tout faire, de plus éclairer, ou peu, finalement. Ouais. En tout cas, d'éclairer juste. Mais d'être effectivement le mât qui demain permettra de faire la captation vidéo, d'être là peut-être en système d'alerte si besoin, d'être aussi un système, parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui ont effectivement des mobiles qui peuvent être déchargés ou on peut ne plus avoir de connexion. Donc on peut aussi avoir des boutons d'appels d'urgence et on peut avoir tout un tas de systèmes comme ça qui sont de plus en plus communicants.
C'est le lampadaire du futur, Made in Béziers, Technilume, qui est donc l'entreprise qui va bien et qui est présente dans plus de 30 pays aujourd'hui. Merci beaucoup,
Agnès
Julien, d'être venue nous en parler. Merci à Riyad Boulanoir, qui était notre coach. Elisabeth Céline,
à demain,
rendez-vous
Raphaël.
Demain, midi, sur Europe 1.
À demain, c'était Raphaël Duchemin. Et dans un instant, sur Europe 1, vous retrouverez Christophe Ondelat, qui vous raconte l'histoire de l'alpiniste Aaron Ralston, qui en mai 2003, coincé au fond d'un canyon, décide de s'amputer l'avant-bras droit pour survivre.